On continue notre tour d'horizon des radios associatives du territoire. Après Radio Verdon et RCF à Gap, on écoute le témoignage de Simon de la RAM 05 à Embrun.
C'est une radio qui a un petit peu plus de 40 ans et qui est associative, qui est née dans l'Embrunais, qui a grandi dans l'Embrunais et qui aujourd'hui rayonne sur le département. Donc on a 3 émetteurs. Aujourd'hui, on veut être départemental dans la ligne éditoriale, c'est-à-dire traiter de sujets aussi bien sud-Hautes-Alpes que jusqu'à La Grave, dans le nord du département. Et c'est une radio qui est beaucoup tournée sur l'information et l'actualité. C'est-à-dire qu'il y a une rédaction qui est composée de 3 personnes qui ne sont pas à temps plein, mais qui anime un journal quotidien, des émissions hebdomadaires, et qui ont vraiment une teneur actualité, on va dire. Mais je dirais que c'est ça la spécificité de RAM 05. Et après, évidemment, il y a aussi toute une constellation de bénévoles, une quarantaine, qui ont des émissions régulières. Ça peut être hebdomadaire, mensuel, bimensuel, trimestriel. Et donc là, pour le coup, on sort un peu du champ info. Il y a du divertissement, il y a aussi du documentaire, il y a un peu de tous les genres.
Je reviens sur la création de la radio. Est-ce qu'il y a une histoire à nous raconter sur cette création ?
Alors c'est une radio qui est née, je pense, comme beaucoup de radios associatives, de personnes qui étaient radio-amateurs, donc qui ont bidouillé des émetteurs, etc. Et puis je pense que ça a été comme une sorte de libération au moment où justement il y a eu la libéralisation des ondes et qu'il était possible pour des radios d'émettre de manière officielle en se constituant en association. Aujourd'hui, cette dimension-là, elle a un petit peu disparu, mais ça fait vraiment partie de l'histoire de la radio. Et après, c'est une radio aussi qui a été très présente... puisqu'elle était en brunaise sur le triathlon d'Embrun, l'Embrunman qui est connu à l'international parce qu'il y a des compétiteurs internationaux, et qui historiquement suivait ça toute la journée. C'était un média qui avait la quasi-exclusivité pour la retransmission en direct. Donc c'est un peu les deux choses qui font le berceau de la radio aujourd'hui.
Et tu parlais de la ligne éditoriale, est-ce que tu peux nous la présenter un peu plus dans le détail ?
Moi je vais vous parler de la ligne éditoriale qui a été validée en Assemblée Générale et par le CA donc il y a quelques années, je dirais 3 ans environ. Comme je vous le disais, on a un journal d'information qui est quotidien et on peut vite tomber dans un biais qui est il faut produire pour produire parce qu'il faut remplir un journal. Et pour s'éviter ça, il y a 3 ans, on a décidé de ne plus avoir 2 éditions quotidiennes, mais d'en avoir plus qu'une, de supprimer le vendredi aussi un journal pour avoir un format avec des choses qui seraient plus longues, où on va plus au fond des choses. Bref, en gros, la ligne éditoriale, on a essayé de la résumer en une phrase, c'était traiter rapidement ce qui peut l'être et traiter au fond ce qui doit l'être.
Et aujourd'hui, en tout cas, la RAM 05, c'est quand même beaucoup sur de l'information locale.
Locale ou alors des sujets nationaux ou internationaux, mais qui ont des répercussions locales. Nous, on estime que les sujets nationaux qui ont vraiment un impact local de par la spécificité du département, ils doivent être traités, quoi.
Donc quand tu dis « nous », c'est qui, finalement ?
C'est la rédaction, parce que on va dire que il y a ce qui est produit par la rédaction et qui est étiqueté rédaction sur le site. Et après, il y a des émissions qui sont produites par les bénévoles et qui n'engagent que, dans la limite évidemment de ce qu'ils ont signé comme engagement à respecter les statuts, etc. Enfin voilà, évidemment, pas de propos diffamatoires, racistes, haineux, etc. Tout ce qui est information, je dirais quand même quotidienne ou qui nécessite des interviews du contradictoire, etc. Ça, c'est vraiment la rédaction. Donc c'est 3 personnes, c'est Viviane, Paul et moi, et peut-être prochainement d'autres personnes si l'équipe s'étoffe, mais en tout cas, voilà, c'est ça la rédaction aujourd'hui. On est salariés, voilà.
Est-ce que tu as un mot à nous dire sur le fonctionnement justement entre vous, les salariés, le CA et puis les bénévoles aussi surtout ?
Ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que il y a de l'opérationnel au quotidien qui est géré par les salariés, le technicien, Edwige qui s'occupe de l'administratif et des partenariats, et puis donc la rédaction composée de 3 personnes. Et ensuite, les relations avec le bureau ou le CA, elles sont moins régulières, c'est pas du quotidien, mais quand même, il y en a régulièrement. Et la nature de ces relations, elle va être amenée à être repensée en fait prochainement, puisque comme je le disais, le bureau a changé, le CA aussi, et donc on est en train de réfléchir, voilà, comment on interagit, surtout quand on est une radio qui fait beaucoup d'informations et qui a une rédaction. Il faut fixer, on va dire, un cadre, c'est-à-dire dans quelle mesure le CA, le bureau, les bénévoles ont un mot à dire sur ce que fait la rédaction. Une rédaction, elle ne peut pas non plus être en totale roue libre. Nous, en tout cas, rédaction, il nous semble que ce cadre, il doit être fixé clairement.
Et avec les bénévoles ?
Avec les bénévoles, alors on a donc Paul, dont je parlais, qui est aussi journaliste dans la rédaction. Lui, il a aussi en charge l'animation, la vie bénévole et la relation avec le bureau. C'est lui, par exemple, qui anime un réseau bénévole de correspondants locaux. On l'a appelé comme ça. En gros, c'est une dizaine de personnes qui habitent un peu partout dans le département et qu'on peut solliciter quand il y a une conférence de presse ou alors qu'on a un sujet qu'on a envie de traiter mais pour lequel on a du mal à envoyer quelqu'un sur place, typiquement à Briançon ou typiquement à La Ragne, donc les deux extrêmes du département. Là, dans ces cas-là, Paul dit bah voilà, il se passe telle chose à tel moment, est-ce que ça t'intéresse d'aller faire du son ? Et ensuite, soit la personne est vraiment débrouillarde et monte et écrit le sujet et nous l'envoie, soit nous on récupère les sons bruts plus quelques infos et des photos et on se charge de faire un sujet. Donc la relation avec les bénévoles, c'est ça, mais c'est aussi toutes les émissions qu'ils enregistrent au quotidien. Donc certains viennent dans les locaux, ils ont leur habitude, ils aiment bien ça, être pris en charge par le technicien. Et donc c'est dans la boîte et c'est diffusé un peu plus tard. Soit il y a des bénévoles qui préfèrent être en autonomie chez eux, qui ont le matos et qui enregistrent leurs émissions, qui les montent et qui nous les envoient et c'est déjà prêt à diffuser. Donc il y a un peu tous les cas de figure. Et voilà, et après la relation avec les nouveaux bénévoles, c'est aussi être à l'écoute pour des nouvelles propositions d'émissions, éventuellement accompagner dans la création de cette émission, parce que souvent les personnes arrivent avec des idées mais ne savent pas exactement comment les mettre en œuvre, c'est-à-dire quelle durée, est-ce qu'il y a du montage ou pas, enfin voilà, ça implique beaucoup de choses quand même de réfléchir sur un projet d'émission. Et puis voilà, après on essaie de trouver un format, une manière de faire, un créneau pour diffuser et puis c'est parti.
Est-ce que tu aurais une ou deux anecdotes de la radio ? Alors ça peut être un truc qui se raconte tout le temps entre vous, un running gag.
Donc deux anecdotes, alors la première, peut-être que c'est un truc de jargonneux et que ça va pas faire rire, mais nous en tout cas c'est comme un petit délire qu'on a avec la rédaction, c'est souvent dans les communiqués de presse en fait il y a vraiment un jargon institutionnel, nous on appelle ça les éléments de langage, hein. Enfin c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est vraiment le jargon du métier quoi, et en fait ça rend les communiqués soit indéchiffrable, soit des fois ça donne l'impression que quelque chose se dit, mais en fait il y a vraiment rien derrière quoi. Et ça nous est arrivé une fois du coup une sorte de bizutage, on a donné à un stagiaire un communiqué de l'éducation nationale qui est vraiment je pense une des institutions la plus la plus forte pour sortir des communiqués à base d'éléments de langage. Et donc on lui a donné ce communiqué et puis au bout d'un moment on avait oublié qu'il bossait dessus et ça devait faire une heure qu'il était en train d'essayer de décrypter le truc. Et il vient nous voir et il dit mais je comprends rien, je comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire ? Et donc on lit le truc et on lui dit, bah voilà, t'as compris, en fait il y avait pas d'informations dedans quoi. Et des fois c'est un peu ça aussi le métier de journaliste, c'est aller au-delà de juste ouvrir les guillemets, citer un communiqué, c'est gratter et puis voir, bah est-ce qu'au fond il faut vraiment qu'on relaie ça ? C'est-à-dire des fois c'est juste communiquer pour donner de la visibilité à une structure. À la fin ça perd les gens, ça noie les gens dans l'information inutile, donc ouais, nous on a vraiment une aversion pour les éléments de langage et tout. Vous savez, ça peut être des éléments du genre quelque chose de demain ou innovant, ambitieux. Enfin, tous ces adjectifs en fait qu'on rajoute quand on veut habiller quelque chose qui sinon nous paraîtrait peut-être, je sais pas, trop sobre ou trop trop banal. Mais au fond, voilà, souvent c'est que du maquillage et quand on gratte, il y a pas grand-chose, quoi. Et puis peut-être une deuxième anecdote, alors là pour le coup c'est plutôt un élément marquant on va dire dans l'histoire de la radio. Mi-janvier, on a publié les résultats d'une première grosse investigation, on peut dire, qui portait sur la société Veolia, donc multinationale, qui a en délégation de service public la gestion de l'assainissement, donc des stations d'épuration dans l'Embrunais, mais à mille autres endroits, hein. Mais voilà, on a démontré grâce à un témoignage anonyme d'un lanceur d'alerte qui avait beaucoup de dysfonctionnements. C'est une enquête qui a demandé en fait, plusieurs mois d'investigation, pas à temps plein, mais le temps d'avoir des réponses, des documents, des entretiens. Ça nous a demandé vraiment beaucoup de travail, mais au final c'était assez satisfaisant, je pense, pour la rédaction et au-delà pour toute l'association, parce qu'en fait on nous en a beaucoup parlé de cette enquête une fois qu'elle a été publiée, et ça a eu des répercussions, je dirais, à la fois juridiques, parce qu'il y a eu des ouvertures d'enquête par le parquet de Gap, confié à l'OFB, et puis il y a eu aussi politiquement, on sent que c'est quelque chose qui a bougé quoi. Et c'est un sujet sur le marché, on vient nous en parler, nous dire ah mais c'est là vous êtes vraiment à votre endroit quand vous faites ça, parce que on est sur l'information, on est sur du local, ça peut déranger un peu, mais en même temps ça soulève des choses quoi, et ça a des répercussions. Et je pense que ça peut être un des rôles des radios associatives, essayer d'avoir de l'impact localement.
Et en même temps, ça doit être difficile d'être localement présent, donc de connaître les acteurs dans des petits milieux et en même temps d'enquêter sur eux.
C'est clair, bah, sur les médias d'investigation locaux, c'est souvent une problématique, c'est-à-dire comment ne pas être grillé, de ne plus être invité aux conférences de presse, etc. Après, je pense qu'il faut être, faut pas plier, quoi, c'est-à-dire faut être inflexible et appliquer sa ligne éditoriale et sa méthodologie. Moi, quitte à, des fois, ne pas se faire que des amis. Mais en même temps, si vous êtes juste et que vous enquêtez aussi bien sur tel mouvement que tel mouvement, que telle tendance politique, etc., à la fin, c'est une sorte d'équilibre global. Et puis, les élus locaux nous ont dit, on attend ça. C'est-à-dire, ça n'existe pas aujourd'hui, l'investigation locale. Alors, peut-être qu'ils disent ça parce que, pour l'instant, ça leur a jamais tombé dessus. Mais en fait, je pense qu'au global, il y a quand même une attente de transparence. C'est difficile à tenir, mais je pense que le modèle des radios associatives, là, ça engage que moi, hein, ce que je dis, mais le modèle économique des radios associatives qui dépend beaucoup de fonds ministère de la Culture, qui est quand même assez éloigné des affaires qui peuvent être ici en local, je pense qu'il permet d'avoir une certaine autonomie, quoi qu'on en dise. Certes, c'est de la subvention, mais c'est de la subvention qui vient de l'État, ou du moment qu'on respecte les engagements à diffuser, de la charte, etc., de l'ARCOM, et ben, il n'y a aucune raison que ces financements soient supprimés. Et donc je pense que ce modèle-là, il peut nous permettre de faire des sujets qui travaillent un petit peu. Et à mon avis, même les radios devraient s'engager vers ça, quoi.
Et donc toi, tu es journaliste au sein de cette radio. Qu'est-ce qui est la force ou l'importance pour toi de travailler dans une radio associative ?
Moi, ça fait 6 ans que je suis arrivé à Embrun et que je travaille à RAM 05. Et donc il y a des sujets qu'on s'approprie sur le long terme, des choses assez complexes en fait. Par exemple, je trouve que si on est très extérieur à la montagne, aux Alpes ou aux Pyrénées, et qu'on essaie de s'approprier le sujet du pastoralisme et de la cohabitation avec les grands prédateurs, donc typiquement le loup par exemple, c'est difficile quand on n'est pas ici de pas tomber dans des schémas, dans des traitements manichéens en fait de l'info. Quand on est en local, on perçoit mieux les difficultés que peuvent rencontrer chacune des parties. Et donc je pense qu'on peut peut-être avoir un traitement un peu plus juste. Et puis même en fait on a une expertise du sujet. Pas parce qu'on est meilleur que les journalistes ailleurs, mais parce qu'en fait on est ici et c'est des sujets qu'on suit sur le long terme. Donc ça permet de petit à petit accumuler une connaissance, donc d'aller plus vite à chaque fois qu'on traite un de ces sujets, et surtout ouais, de peut-être moins faire d'erreurs, d'avoir des biais, etc.
Les 5 et 6 juin, 2 jours de direct sur nos antennes pour la fête de la radio.
Je m'appelle Christophe, je suis le technicien de RAM 05, donc c'est moi qui suis chargé de mettre en onde, comme on dit, d'enregistrer les bénévoles, de réaliser la technique des émissions en direct, comme le journal, voilà.
Et en quoi consiste concrètement ton métier au quotidien ?
Alors au quotidien, c'est beaucoup enregistrer les émissions des bénévoles qui, eux, n'ont aucune connaissance technique du son. Ils viennent, ils se mettent devant le micro, ils font leur truc et c'est à moi de faire en sorte que leur voix soit bien enregistrée, que leur musique, que les musiques qu'ils me donnent pour leurs émissions sonnent bien, éventuellement de faire les montages si on fait les choses séparément. Ça consiste également à faire la programmation des émissions de la journée sur un logiciel qu'on a, un logiciel d'automation, où on programme un petit peu toutes les émissions, tout ce qui se passe dans la journée, d'ailleurs les basculements sur RFI qui est notre partenaire pour des infos, sur la musique l'après-midi, les émissions du soir, voilà, et réaliser le journal en direct avec les journalistes, d'enchaîner les interventions des journalistes avec les interviews, les petits jingles et tout ça.
Quand et comment tu es rentré dans cette radio ? Enfin, ça fait combien de temps ? Et ton histoire avec la RAM 05 ?
Oh, elle est longue. Mon histoire avec RAM 05, elle ne s'appelait pas encore RAM 05, elle s'appelait encore Radio Alpine Meilleur. Donc, pour situer, j'ai un peu plus de 55 ans. Je suis rentré dans cette radio, j'en avais 17. Comme bénévole, un copain à moi qui m'a dit « Ouais, bah, y a une radio qui se monte sur un brun. » une radio. Oh là là, c'était énorme pour moi. On est allé visiter ce truc, il m'a montré. Alors c'était dans une petite chambre miteuse, c'était assez miteux. Il y avait une petite table de mixage bricolée et deux platines. Et pour moi, ça semblait un Eldorado complet. J'avais les yeux grands ouverts. J'ai dit, ouais, mais c'est génial ça, je peux le faire moi aussi. Mais ouais, tu peux. Et ben, voilà, je me suis inscrit comme bénévole. J'ai été bénévole pendant 2 ans. Après, je suis allé faire des études ailleurs que sur Embrun. Pour l'année de ma terminale, j'ai passé cette année à Sisteron. Et il fallait que je fasse de la radio. Donc, j'ai cherché une radio locale là-bas. Et je suis tombé sur Fréquence Mistral. Et j'ai fait un an de bénévolat sur Fréquence Mistral à Sisteron. Et bon, après, la vie suit son cours. Et puis, un jour, à Pôle emploi, on me dit, il y a RAM 05, c'était encore la RAM. Il y a la RAM qui cherche un technicien. Ah bon, mais voilà, moi je veux faire ça, moi, c'est ça que je veux faire. Et voilà, j'ai retrouvé des anciens qui me connaissaient de quand j'étais tout jeune. Bon, ça n'a pas empêché de passer les entretiens, mais j'ai toujours fait du son toute ma vie. Je sonorise des groupes sur scène, j'ai tenu un studio d'enregistrement. Donc le son, c'est vraiment, moi, ma passion. Et ben voilà, ça a collé de suite. Et là, ça fait maintenant, ça fait 10 ans que je travaille ici.
Et ma dernière question, ce sera, c'est quoi pour toi qui est la force, ou en tout cas l'importance de travailler dans une radio associative ?
Eh ben, dans une radio associative, déjà, ça va être une petite radio, en général. Et dans une petite radio, on touche à tout. On est une petite équipe, déjà, on est bien soudés. Nous, ici, on a la chance de bien s'entendre tous. On est une bonne équipe, entre la rédaction et moi, qui suis le seul technicien ici. Voilà, on touche à tout. Alors que dans une grande radio commerciale, y a ceux qui écrivent les sujets, puis c'est pas les mêmes qui sont à l'antenne, au micro. Tout est un peu cloisonné, séparé. C'est des plus grosses structures, c'est normal. Mais voilà, nous, en tant que petite structure, c'est bien, parce qu'on voit tous les aspects du boulot de tout le monde.